Il est 7h.
Un collègue me disait qu'il avait le sentiment d'être devenu un directeur d'une ALS, une agence locale de santé, tellement il passait de temps dans son établissement à traiter et à régler ces problèmes-là.
Des proviseurs débordés par la gestion des cas de Covid, ils demandent à leur ministre de ne pas exclure une fermeture des écoles au cas par cas. Le conseil scientifique, lui, laisse le gouvernement trancher sur la question, sur la tenue des élections régionales en juin prochain. Avis rendu hier avec tout de même quelques recommandations à la clé. Ils avaient été jusqu'à installer des caméras pour prévenir toute opération de police. Plusieurs dizaines de fêtards verbalisés ce week-end à Marseille après une soirée clandestine. Dans ce journal aussi, les premiers témoignages au procès du meurtre de George Floyd et la forêt de Chantilly, c'est tout près de Paris, devenu laboratoire du changement climatique. Juste après ce journal, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
Et on va s'intéresser à ce bras de fer extraordinaire aux États-Unis entre Amazon, 800 000 employés et certains de ses salariés qui, pour la première fois, veulent se syndiquer. Vont-ils y arriver ? Toute l'Amérique regarde.
Ce sera suivi du regard international de Vincent Hervouet, de l'édito sport de Virginie Fulpin et de notre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mais qu'est-ce qu'un bout en train ? Bon, c'est Bertrand Chameroy qu'on retrouvera tout à l'heure. Mais d'où vient l'expression bout en train ? Je vous le dis dans un instant.
A tout à l'heure Stéphane. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est avec Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Un an de restrictions, le retour des beaux jours et comme une furieuse envie de pouvoir profiter à nouveau, s'attarder avec sa boisson à emporter devant un bar, se retrouver à un peu plus qu'autorisé. Si certains s'accordent de petites entorses aux règles sanitaires en vigueur, d'autres n'hésitent pas à piétiner les interdits en mettant tout en œuvre en plus pour s'assurer de ne pas être pris.
C'est ainsi qu'à Marseille, après le carnaval polémique de la mi-mars, c'est une soirée clandestine, beaucoup plus discrète que les policiers ont interrompu ce week-end, Guillaume Bié.
Oui, la fête battait tellement son plein que des participants ont publié des vidéos sur les réseaux sociaux et c'est cela qui a alerté la police. Vers 3h du matin, une douzaine d'équipages a encerclé le bâtiment, un ancien bar en travaux, mais impossible d'entrer, tout était cadenassé de l'intérieur, avec même des caméras pour surveiller les abords et repérer l'arrivée éventuelle de la police. Alors vers 6h du matin, les fonctionnaires se sont faussement repliés, ils sont sortis du champ des caméras, laissant croire que la voie était libre. Résultat, 200 fêtards sont sortis d'un seul coup et une quarantaine d'entre eux ont été verbalisés. Sur place, les policiers ont saisi les fameuses caméras et les images sur disque dur. Beaucoup de bouteilles d'alcool aussi et de peroxyde d'azote. Vous savez, ces cartouches de gaz hilarants et dangereux. D'après nos confrères de la Provence, certains participants venaient de l'autre bout de la France. En témoignent leurs voitures qui ont été placées en fourrière. Mais le ou les organisateurs de cette soirée payante n'ont pas encore été identifiés.
Le récit de Guillaume Bié pour Europe 1.
Près de 9 lits sur 10 occupés et déjà plus de malades en réanimation qu'au plus fort de la deuxième vague. La pression sur les hôpitaux ne retombe pas.
En première ligne aussi l'école avec ce nouveau protocole sanitaire, classe fermée dès le premier cas de Covid. Un protocole très lourd pour les proviseurs qui ont été reçus hier en fin de journée par le ministre de l'Éducation nationale. Bonjour Virginie Riva.
Bonjour.
Ces proviseurs qui ont fait passer un message à Jean-Michel Blanquer, soyez moins stricts sur la question de la fermeture des écoles.
Oui, car ils sont débordés face à l'explosion de contamination. Ils ont le sentiment d'être devenus des gestionnaires de problèmes de santé. Entre le traçage des cas, les appels aux parents, les fermetures de classe, ils ne font que ça. Et encore de manière imparfaite, disent-ils, car souvent les délais d'instruction de l'ARS sont trop longs. Pour toutes ces raisons, le syndicat des directeurs d'établissement, le SNPDEN, l'a dit hier soir au ministre. Si sur une école, un collège ou un lycée, la moitié des classes est fermée, que les cas explosent ou que trop de personnel est absent, il ne faut pas avoir peur de fermer entièrement cet établissement.
Un collègue me disait qu'il avait le sentiment d'être devenu un directeur d'une ALS, une agence locale de santé, tellement il passait de temps dans son établissement à traiter et à régler ces problèmes-là. Bah, nous, on considère qu'il faut regarder les choses au plus près du terrain et qu'à un moment donné, oui, il faut peser la situation et ne pas hésiter à prendre une décision de fermeture si on considère qu'elle est adaptée parce que l'établissement ne peut plus tenir dans une situation trop dégradée.
Pourtant, face à eux, Jean-Michel Blanquer s'est voulu positif. Si vous voulez une leçon d'optimisme, appelez-moi, leur a-t-il même dit. Mais le credo du maintien absolu des écoles ouvertes a de plus en plus de mal à passer.
En revanche, il y a une mesure que demandent fortement les enseignants, c'est la vaccination. Et le sujet a été évoqué hier par Jean-Michel Blanquer.
Oui, en s'en tenant au calendrier annoncé par le président de la République, à savoir objectif fin avril. Au ministère de la Santé, on confirme commencer à réfléchir à une vaccination des métiers les plus en contact, comme les enseignants et l'ensemble des personnels de l'éducation nationale. Et on comprend à demi-mot qu'ils pourraient être vaccinés dans les vaccinodromes, car ils sont très nombreux.
Les précisions de Virginie Riva pour Europe 1.
Et cette vaccination que demande aussi le premier syndicat de la RATP, au moins pour les agents en contact avec le public.
La balle est maintenant dans le camp du gouvernement. Le Conseil scientifique a rendu son rapport hier sur l'organisation des élections régionales au mois de juin prochain.
Un avis de 16 pages dans lequel le Conseil ne se prononce pas sur l'opportunité de reporter une nouvelle fois le scrutin, Jean-Rémy Baudeau.
Oui, dans un avis très mitigé sur la situation actuelle, les 17 membres du Conseil scientifique renvoient les autorités, je cite, aux décisions qui leur incombent, des décisions qu'ils jugent éminemment politiques. Bref, pas question de trancher eux-mêmes. Mais le Conseil scientifique fixe tout de même quelques recommandations, que les candidats soient vaccinés ou régulièrement testés, idem pour ceux qui tiendront les bureaux de vote. Sans se mouiller, il précise qu'un report permettrait de réduire les risques de contamination et il regrette par ailleurs que le vote par correspondance ne puisse pas être envisagé. Fin de citation. En réalité, le Conseil scientifique renvoie l'exécutif à sa capacité à freiner l'épidémie. Quel avenir pour les régionales ? À Matignon, on juge que tout est ouvert. À l'Élysée, officiellement, on réfléchit encore. Décision attendue d'ici jeudi. Des consultations doivent avoir lieu avec les différents partis. Mais quel que soit le choix retenu, le risque politique existe pour Emmanuel Macron, qu'il reporte ou non les élections. Certains dans l'opposition ne manqueront pas de l'accuser de jouer avec la démocratie ou d'instrumentaliser le scrutin.
Et de son côté, le Conseil d'État a tranché. Le couvre-feu ne sera pas modifié, repoussé au-delà de 19h pour les célébrations de la veillée pascale. C'était une demande de deux associations.
7h07 sur Europe 1. Le sens de la formule plus que le sens des réalités. Pétrole contre vaccin, la proposition contestée de Nicolas Maduro au Venezuela.
Le pays confronté à une deuxième vague plus virulente selon les autorités. Dans le même temps, à cause de ses dettes contractées notamment auprès de l'Organisation mondiale de la santé, Caracas peine à se faire livrer des doses et la promesse d'un échange avec du pétrole qui plus est sous embargo ne tient pas selon Alejandro Izquierdo, professeur d'économie à la Sorbonne et ancien cadre de l'industrie pétrolière au Venezuela.
C'est de la démagogie, de la fantaisie. La production de pétrole a chuté brutalement au Venezuela. On est passé de 3 millions de barils par jour à seulement 500 000 barils par jour. Il n'y a pas suffisamment de pétrole pour négocier des vaccins.
La production,
d'autant que le peu de production qu'il reste est déjà destiné à la Chine. Maduro bluffe, c'est de la communication.
Puro bluff communication.
L'économiste Alejandro Izquierdo avec Pierre Arbulo pour Europe 1.
Même le président Joe Biden a promis de suivre les débats. Première journée hier dans le procès de Derek Chauvin, ce policier blanc accusé du meurtre de George Floyd. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Une première journée d'audience qui a replongé l'Amérique au cœur du drame.
Oui, trois témoins ont répondu aux questions de la défense et de l'accusation. Deux passants qui étaient dans la rue au moment de l'interpellation de George Floyd et une femme des services d'urgence qui, elle, a assisté à l'arrestation via une caméra de surveillance. La scène a duré si longtemps qu'elle a cru que l'image s'était figée. Elle a senti que quelque chose n'allait pas. Derek Chauvin ne s'est pas exprimé. Il a pris beaucoup de notes sur un carnet au cours de cette journée qui a donné un aperçu des débats à venir. Avec une question clé, quelle est la cause de la mort de George Floyd ? Une overdose, selon l'avocat de Derek Chauvin. Les preuves vont montrer que George Floyd est mort d'une arythmie cardiaque causée par de l'hypertension et l'ingestion de stupéfiants comme des méthamphétamines. L'accusation va, elle, placer la vidéo de l'arrestation au cœur de ses arguments. Vous pouvez croire ce que vous avez vu, c'est un homicide, c'est un meurtre, assure le procureur. Derek Chauvin a trahi son serment en faisant un usage excessif et déraisonnable de la force sur George Floyd. Le procès est diffusé dans tout le pays et le verdict attendu à la fin du mois d'avril.
Alexis Guillot aux États-Unis pour Europe 1. 24 semaines de congé parental indemnisé à 80% et à répartir librement sur les trois premières années de l'enfant. Dès jeudi, le constructeur automobile suédois Volvo Cars va proposer la mesure à ses salariés. 40 000 personnes à travers le monde. L'idée est notamment d'encourager les hommes à prendre leur congé parental.
C'est un espace de 6200 hectares composé de chênes, de pins sylvestres ou de hêtres. La forêt de Chantilly, désormais zone d'expérimentation face au changement climatique.
Oui, de toute la France, ces derniers mois sont venus des images d'arbres desséchés, victimes de la chaleur. D'où cette question, comment préserver nos forêts ? Eh bien, un collectif de forestiers, de scientifiques et d'habitants a été créé à Chantilly pour pouvoir apporter des réponses. Pour Europe 1, Virginie Salmen.
Ils sont plus d'une centaine d'habitants bénévoles à faire l'inventaire de la forêt avec les scientifiques.
167 !
Ils mesurent les diamètres des troncs, donnent une note aux arbres en fonction de leur santé.
On met 2 pour la saie et 3 pour les branches mortes.
Le mystère, c'est que parfois un arbre meurt, mais son voisin résiste. Pour comprendre, les scientifiques ont creusé dans la forêt 60 fosses de 2 mètres de profondeur sur 1 mètre de large. Et ça leur a permis de trouver une première piste.
On a espoir que dans le sol, il y ait une association organominérale qui puisse offrir des petits soubresauts de survie aux arbres.
Daisy Copeau, ingénieure forestière de la forêt de Chantilly. Ouais.
C'est-à-dire peut-être de la matière organique, on ne sait pas si elle est vivante ou pas, associée à du minéral. Ce petit truc, quand il est là, on se demande s'il n'aide pas les arbres à survivre en contexte très difficile.
Ces nutriments mystérieux cachés dans le sol, dans de petites bandes d'argile, sont en cours d'analyse en ce moment dans les laboratoires des scientifiques de l'INRAE. S'ils prouvent que c'est ce qui permet à certains arbres de survivre, ils pourront adapter les plantations en fonction du sol et sauver une partie de la forêt.
Virginie Salmen.
Ça donne en tout cas au moins envie d'aller faire un tour, reconnaître ses essences en forêt de Chantilly. Merci beaucoup Marion Calais, c'était le journal de 7h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et on va parler de ces questions du climat. L'arrivée à l'Assemblée du projet de loi climat et résilience. On va suivre les débats bien sûr. Mais avant cela, une invitée de marque ce matin sur Europe 1. Elle s'appelle Christiana Figueres, l'ex-secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, ancienne négociatrice des accords de Paris. Elle publie « Inventons notre avenir », un travail résolument optimiste. Vous l'entendrez, c'est l'invité de ce matin du tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco Nicolas Barré, avant le regard international de Vincent Hervouet.
Oui, la Birmanie vers la guerre civile, la junte a fait au moins 500 morts et bombarde désormais les Karennes.
A tout de suite, il est 7h12.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h13 sur Europe 1. C'est l'éclairage éco. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Vu d'Europe, ça semble un combat d'un autre siècle. Depuis des mois, une bataille oppose des salariés d'Amazon à la direction pour créer un syndicat.
Oui, bataille symbolique suivie par toute la presse et les chaînes de télévision. Il y a même dans ce bras de fer un parfum de lutte pour les droits civiques qui rappelle les années 60. Amazon, vous savez, emploie plus de 800 000 personnes aux États-Unis. C'est le deuxième employeur après Walmart. Mais pas un seul de ses salariés n'est syndiqué. Or, en février, eh bien pour la première fois, des employés d'un entrepôt du géant de l'e-commerce dans l'Alabama ont obtenu d'organiser un vote pour ou contre la création d'un syndicat. C'est David contre Goliath.
Amazon, c'est le deuxième employeur américain.
Exactement.
Je le note. Le vote se terminait donc hier soir. On attend les résultats dans quelques jours.
Oui, alors ce vote peut changer l'histoire parce qu'Amazon s'est toujours fermement opposé à la création de syndicats aux États-Unis pour des raisons de principe, plus que de coût du travail d'ailleurs. Amazon paye plutôt mieux ses employés que la moyenne. Il leur fournit une assurance santé correcte et il veut garder en contrepartie une grande flexibilité dans l'organisation du travail. C'est ça qui se joue dans ce bras de fer que tout le business américain regarde car tous les secteurs sont concernés. Jusqu'ici, Amazon a toujours gagné. D'ailleurs, à chaque tentative de création d'un syndicat, le groupe de Jeff Bezos a mobilisé des moyens considérables en faisant appel à ce qu'on appelle des union busters. C'est des consultants anti-syndicats qui utilisent toutes les techniques des campagnes politiques, la publicité, la vidéo, les réseaux sociaux, etc. pour dissuader les salariés de se syndiquer et souvent avec succès.
Il faut dire que les salariés sont divisés sur l'utilité des syndicats.
Oui, c'est ça qui est intéressant. L'Alabama où se joue ce bras de fer fait partie de ces états du sud que l'on appelle des right to work states, c'est-à-dire où les salariés ne sont pas obligés de payer des cotisations pour un syndicat parce que dans d'autres états, c'est le contraire et tous les salariés sont obligés de cotiser. Et c'est pour finalement le maintien de ce système dual que se bat Amazon, mais aussi beaucoup d'entreprises américaines. Pour que coexistent au sein de la première économie mondiale, eh bien, tout simplement, des zones très libérales et d'autres où les normes sociales sont plus strictes. Et au fond, pour que ces deux univers se confrontent avec cette idée que si les normes sociales sont trop strictes dans un État, eh bien, les entreprises s'en iront. Mais si les conditions sont trop dures pour les salariés, c'est la main-d'œuvre qui manquera. Alors, pour Amazon, c'est cette diversité de situations qui fait le dynamisme de l'économie américaine et qu'il faut garder.
Merci, Nicolas. Le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, s'est rendu en Alabama sur le lieu de ce vote pour ou contre la création d'un syndicat chez Amazon. Bernie Sanders, figure de la gauche américaine. Écoutez ce qu'il est venu dire. Ce que je dis à Monsieur Bezos, c'est pourquoi, alors que vous avez tant d'argent, plus d'argent que vous pouvez en dépenser dans un million de vies, pourquoi dépensez-vous des millions pour tenter de faire échouer l'effort des travailleurs qui ne demandent rien de plus qu'un salaire décent et des conditions de travail décentes?
Ah oui. Et évidemment, il vient du Vermont, qui est l'État le plus social des États-Unis.
Effectivement, et c'est un débat animé, vif, aux États-Unis. Merci de l'avoir raconté, Nicolas Barry. Il est 7h16 sur Europe 1. Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Depuis leur coup d'État, il y a 2 mois, les militaires ont tué 500 Birmans. Vous dites qu'ils ont engagé un processus de guerre civile.
Oui, depuis 2 mois, on voit qu'ils ont la main de plus en plus lourde. D'abord le canon à eau, puis les lacrymogènes, puis les grenades assourdissantes, puis les balles en caoutchouc, puis les tirs à vue, puis le mitraillage. Et après, eh bien après, les chars, l'artillerie, les bombardements aériens. L'état-major ne reculera pas. Il a déjà commencé, vous allez voir. C'est une armée qui est faite pour la guerre civile. Elle s'y entraîne depuis l'indépendance. Elle n'a jamais cessé, même quand Aung San Suu Kyi gouvernait. Le monde s'est indigné du nettoyage ethnique des Rohingyas, l'écrasement des minorités et la raison d'être de cette armée qui s'identifie à la nation. Ça ne l'effraie pas, c'est même le contraire. Et on l'a vu ce week-end.
Les militaires ont fêté le jour des forces armées en faisant plus d'une centaine de morts.
Oui, le monde l'a vu tirer dans le tas, à la syrienne. C'était exprès, une façon de parader devant les invités. Le sous-ministre russe, le chinois, l'indien, les pays d'Asie venus en voisin. Ceux qui comptent aux yeux des généraux. En revanche, ils se moquent des nouvelles sanctions américaines, des cris d'indignation des Européens. Ils ne mettent pas leur fortune à Wall Street et ils ne vont pas en week-end sur la Côte d'Azur. La preuve de leur détermination absolue, c'est le bombardement ce week-end des Karen. C'est au sud-est, la minorité chrétienne qui résiste depuis une éternité à l'assimilation. Les avions ont visé l'Union nationale Karen, le principal mouvement de cette vieille rébellion. Ce n'était pas arrivé depuis un quart de siècle. Il y a des morts, un début d'exode. Hier, 3000 Karen ont fui en Thaïlande.
Pourquoi rallumer ce front ?
Il faut écouter les discours officiels, pas le chef de la junte qui promet des élections libres à la Saint-Glinglin, c'est de l'humour à la Bachar el-Assad. Il faut écouter la télé des militaires, My Awadi TV, qui prétend qu'un policier a été brûlé vif à Mandalay, que les Karen ont attaqué une base de l'armée, que les manifestants ont des armes à feu, qu'ils lancent des bombes. Il s'agit de prouver que la junte n'avait pas le choix. En menant la politique du pire, elle finira d'ailleurs par avoir sans doute raison.
Merci Vincent Hervouet. 7h18 sur Europe 1. Tout de suite l'édito sport de Virginie Fulpin.
Antoine Griezmann en est à 45 sélections de suite en bleu. Un record. On va en inventer encore longtemps, des records qui veulent rien dire.
Ce sera juste avant votre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h21, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
L'équipe de France de football affronte la Bosnie demain. Troisième match qualificatif pour la Coupe du Monde 2022. Dimanche, Antoine Griezmann a honoré sa 45e sélection de suite. Un record depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Sauf que, pour vous, Virginie, il faut arrêter avec ces records qui ne veulent rien dire.
Bah, le foot va finir par se noyer dans un océan de records bidons. Hein. C'est 45 sélections de suite en bleu pour Antoine Griezmann. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il est un joueur essentiel de l'équipe de France ? Qu'il a toute la confiance de Didier Deschamps ? Qu'il fait preuve d'une régularité impressionnante en bleu ? Et qu'il n'est jamais blessé ? C'est tout, et c'est déjà énorme. Mais si juste une fois, Antoine Griezmann n'avait pas été présent lors d'un match amical des Bleus,
bah
par exemple, bah ce record n'existerait pas, effectivement.
Eh ben
et ça changerait quoi à son niveau, à son influence sur le jeu de l'équipe de France et à son rôle primordial dans la conquête du titre mondial en 2018 ? Absolument rien. Donc je trouve que d'insister à ce point sur ce record de sélection à la suite, ça dénature notre perception du football. À vouloir tout chiffrer, à ne raisonner qu'en termes de statistiques, quelles qu'elles soient, on s'éloigne du jeu. Regardons jouer Antoine Griezmann, voyons comment il est capable d'éclairer le jeu de l'équipe de France, à pression par exemple le but qu'il a marqué contre l'Ukraine la semaine dernière, et analysons ses prestations dans les matchs importants, oui. Mais ces 45 sélections de suite, ça ne dit rien de ses qualités.
Cela dit, oui, c'est peut-être une folie aussi des diffuseurs hein, d'avoir eu des statistiques tout le temps. Ça fait 228 minutes qu'il n'a pas tiré en dehors de la surface, c'est
voilà.
ce genre de chiffres.
On est bien avancé avec ça.
Ça permet quand même, Virginie, de comparer, puisqu'on parlait de Griezmann, sa régularité à celle des autres.
Ouais, mais faire des comparaisons à travers les époques, là encore, ça ne veut rien dire. Antoine Griezmann a dépassé Patrick Vieira. 45 sélections de suite, c'est un record depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais de quoi parle-t-on ? Au fil des ans, il y a de plus en plus de matchs internationaux. On a ajouté des compétitions, comme la Ligue des Nations, par exemple. Alors évidemment, plus l'équipe nationale joue, plus les joueurs cadres sont capés. Michel Platini a porté le maillot bleu 72 fois. Ils sont 24 à compter plus de sélections dans l'histoire. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont tous eu plus d'importance que Platini en équipe de France ? Je suis pas sûre, quand même. Et encore, là, on parle de l'ensemble des sélections, pas des sélections à la suite, comme les 45 de Griezmann. Donc, à créer toute pièce des records de ce genre, tout ce qu'on fait, c'est privilégier la culture de l'instant. Ce sont forcément les joueurs actuels qui auront les chiffres les plus impressionnants. Et ça a des effets pervers, notamment chez les plus jeunes qui analysent le football, surtout à travers ces records. Pour certains d'entre eux, les anciens joueurs ne doivent pas avoir été si bons que ça, puisque les chiffres ne mentent pas. Bah, si, justement, ils peuvent mentir. Et je le répète, ne pas tenir compte de ce record, ça n'est pas du tout faire injure à Antoine Griezmann, au contraire.
Merci Virginie Fulpin. L'édito sport, c'est tous les matins et c'est à 7h20 sur Europe 1. Tout de suite, on retrouve Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Je ne vais pas trahir un grand secret, mais derrière Mathieu Béliard, le journaliste concentré et rigoureux, il n'est pas question de beaucoup gratter pour trouver un sympathique bout en train. Mais bout en train, d'où vient cette expression ?
En tout cas, merci Stéphane de mettre en avant mes qualités de journaliste. Un bout en train, c'est quelqu'un de toujours gai et dont la joie est communicative. C'est quelqu'un qui met l'ambiance.
Exactement. Bouter, c'est pousser. On se souvient de Jeanne d'Arc qui tenait à bouter les Anglais hors de France. Vous me direz, mais quel rapport avec le train ? En 1762, le dictionnaire de l'Académie française explique que le bout en train était un oiseau particulièrement gai que l'on mettait avec d'autres pour les faire chanter. Mais en fait, c'est du côté hippique que nous allons trouver l'explication de cette expression. Un bout en train, et voyez-vous, c'est un cheval entier, comprenez, doté de tout ce qu'il faut où il faut et utilisé dans les haras pour préparer la jument à la saillie. Concrètement, vous avez un pur sang de grande valeur que vous souhaitez faire reproduire, mais vous avez peur qu'il soit abîmé par une ruade mal placée. Vous allez donc préparer l'accouplement avec un bout en train qui va voir si son homologue femelle est disposée, si elle est en chaleur, etc. Et au moment fatidique, le bout en train est écarté pour laisser place au pur sang.
Oh, le pauvre.
Pour résumer, le bout en train met l'ambiance, mais il ne met que l'ambiance. On peut le plaindre parce que ça m'a l'air d'être assez frustrant. Ouais. En allemand, on appelle le bout en train un canon à bonne humeur. Vaste programme. En espagnol, on dit « la alegría de la huerta ». Traduisez « mettre la gaieté dans le potager ». Voilà une métaphore qui, là encore, laisse imaginer plein de choses.
Oui, on va laisser imaginer. Et on vous retrouve à 16h. Tout à l'heure, Stéphane, pour Historiquement Vôtre.
Oui, on réunit deux hommes politiques américains, Alexander Hamilton et Aaron Burr, deux grands champions de boxe, Mohamed Ali et George Foreman, et deux rappeurs qui ne s'aiment pas, Caris et Booba. Leur point commun ? Ils se sont affrontés. Trois duels au sommet avec pistolets, gants de boxe et flacons de parfum de Duty Free au programme cet après-midi.
Et le match de boxe entre Stéphane Bern et Mathieu Noël, c'est historiquement votre à 16h. 7h26 sur Europe 1 dans un instant. Laurent Cabrol pour la météo et un nouveau journal avec Sophie Hachen. À tout de suite. Il est 7h28 et Laurent Cabrol est avec nous pour ce qui est, si j'ai bien retenu, la plus belle journée de la semaine.
Oui. Mais, et Jean, notre réalisateur, me disait hors antenne, je dis pas qu'il va faire froid l'année, la semaine prochaine. Soit le bout
t'as
en train.
Ça, Jean
du... oui, il a dit soit le bout en train du jour. Donc le bout en
profitons
train.
Profitons du beau temps.
Il fait bon, il fera beau. Oui, il fera beau encore pendant 3 jours, mes amis. Mais après, j'avoue que ça va être difficile la semaine prochaine. Hein. Ce sera un temps un petit peu plus froid. Alors, j'ai un conseil à donner à tous ceux qui sont des fans de jardinage. Hein. Suspendez vos plantations, s'il vous plaît. Attendez encore un petit peu. Voilà. Mais ne mettez pas de la gaieté dans votre potager, comme dirait Stéphane Bern. Les températures vont grimper aujourd'hui encore. 18 à Montpellier, 20 à Nice. 21 à Brest, 22 à Toulouse, 23 à Caen, 24 à Bourges et Paris, 25 à Nancy, Colmar et Lyon, 26 à Clermont, 27 à Bordeaux, 28 dans les Landes. Un temps d'été avec ce matin un froid presque d'hiver, un froid d'automne, avec des températures dégelées, Charleville, Vichy, en Sologne. Donc là, l'amplitude est colossale entre le matin et le soir. Si vous êtes en train de prendre une petite douche, il faut mettre un radiateur certainement, parce que si vous avez coupé le chauffage, vous allez avoir froid.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Hachen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
7h30 sur Europe 1, un nouveau journal.
On a tellement envie d'un mariage où on peut s'embrasser, se prendre dans les bras et on n'est pas forcément obligé de porter le masque, que ça a pris le dessus sur le sentiment de déception.
Et le nombre de mariages a chuté l'an dernier. Les couples qui n'ont pas annulé ont souvent préféré repousser les festivités. Dans ce journal, peut-être une solution pour désengorger les hôpitaux, la prise en charge des malades du Covid à domicile. Et puis ça rappellera des souvenirs aux fans de Louis de Funès. La voiture du gendarme à Saint-Tropez a été vendue sur le Bon Coin. Vous l'entendrez rugir dans son garage.
Juste après ce journal, La Touche Âme, c'est Bertrand Chameroy. Le tête-à-tête Europe Matin avec Christiana Figueres, ex-secrétaire des Nations Unies sur le climat, ancienne négociatrice des accords de Paris. Elle publie « Inventons notre avenir » chez Albin Michel. L'édito politique, Nicolas Bétou.
Bruno Le Maire veut relancer sans attendre la réforme des retraites. Alors, suicide ou joli coup politique ?
Nicolas Canteloup ensuite, qui conseille à sa manière l'invité de la matinale. Sonia Mabrouk reçoit aujourd'hui la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ce n'est pas une surprise, l'épidémie de coronavirus a lourdement impacté les célébrations de mariage l'année dernière. Entre confinement à répétition, comité restreint et contraintes sanitaires, de nombreux couples ont préféré annuler ou reprogrammer. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, il y a eu 155 000 passages devant le maire en 2020, soit 31% de moins que l'année précédente. Mais la future mariée qu'a interrogée Zoé Pallier continue de garder espoir.
Entre la fermeture du gîte qu'elle avait réservé et les jauges à respecter, Chloé a préféré repousser son mariage un an tout juste après un premier report. Elle se projette en 2022 avec une centaine d'invités.
Il y a eu la déception, surtout qu'on était très impatients de se marier. Mais disons qu'on a tellement envie d'un mariage où on peut s'embrasser, se prendre dans les bras et on n'est pas forcément obligé de porter le masque, que ça a pris le dessus sur le sentiment de déception.
D'autres comme Edouard ont quand même tenu à passer devant le maire, quitte à attendre pour les festivités et la cérémonie religieuse.
Le mariage civil a pu se tenir en juin dernier avec nos seuls témoins. Pour le mariage religieux, on devrait se marier en novembre prochain, mais c'est le flou total et on a du mal à se replonger dedans.
Enfin, certains couples ont préféré tout annuler. Pas de nouvelles dates prévues pour leurs noces, regrette Mélissa Imbert. Elle préside l'Union des professionnels du secteur.
Ceux qui ont déjà reporté une ou deux fois ne voient pas le bout de cette histoire et ont de moins en moins le goût à la fête et se tournent de plus en plus vers des annulations.
Mélissa Imbert qui espère que des fiancés accepteront le protocole soumis par son organisation au gouvernement, test PCR pour tous et masque obligatoire jusqu'au bout de la nuit sur la piste de danse.
Zoé Pallier. Et puis autre chiffre dévoilé par l'INSEE, le taux de mortalité qui explose en France, plus 9,1% l'an dernier, du jamais vu depuis 70 ans.
Sur le front de l'épidémie, 4974 malades du Covid sont actuellement hospitalisés en réanimation. La France vient de dépasser le pic de la deuxième vague à l'automne dernier.
Les soignants ne cessent d'alerter sur la situation critique dans les hôpitaux. Ce matin, on va se pencher sur un moyen de faire peut-être un peu de place dans les établissements de santé. C'est la prise en charge des malades à domicile.
Bonjour Victor Delande.
Bonjour.
Alors ce système, il n'était pas du tout organisé lors de la première vague il y a un an, mais il s'est répandu ces derniers mois.
Oui, c'est l'une des pistes qu'étudie actuellement le gouvernement pour soulager un peu les hôpitaux. Sauf que le sujet fait débat au sein de la communauté médicale. Le Covid est une infection complexe. Il ne faut faire courir aucun risque aux patients. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'environ 5000 patients sont pris en charge actuellement chez eux. Et selon certains professionnels de l'hospitalisation à distance, ce sont 3 fois plus de malades du coronavirus qui pourraient être soignés à domicile.
Alors cette pratique est très encadrée. Concrètement, Victor, ça se passe comment ?
Oui, il faut d'abord l'accord du patient, un lien ensuite entre l'hôpital et le médecin de ville qui surveille le malade et une infirmière qui passe à son domicile pour surveiller ses constantes. C'est souvent pour des patients qui ont déjà été hospitalisés et qui ont passé la phase la plus dure de la maladie, comme l'explique Elisabeth Hubert, présidente de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile et ancienne ministre de la Santé.
La phase la plus aiguë est passée. Et là, nous sommes tout à fait mobilisables, mais aussi parce qu'il y aura le reste du traitement, les anticoagulants, les corticoïdes, voire les antibiotiques, ce qui permet à un autre malade de prendre sa place.
Et dans certains cas, ça peut aussi éviter de passer par la case hôpital à certains patients qui pourraient faire des formes graves. Depuis octobre dernier, le docteur Nicolas Gandry pilote un projet avec l'hôpital d'Argenteuil et les résultats sont très encourageants.
On a pris 250 patients et 90% ont passé le cap et sont restés à la maison.
maison et on a pu même les sevrer en oxygène à domicile. Il y en a 10% qui ont été réhospitalisés. On a toujours vu l'aggravation venir.
Mais certains médecins refusent d'hospitaliser à domicile des patients atteints de formes graves avec le Covid, disent-ils. Leur état peut se dégrader trop rapidement.
Merci Victor Delande, spécialiste santé d'Europe 1.
Les dirigeants d'une vingtaine de pays, dont Emmanuel Macron et Angela Merkel, mais aussi le président du Conseil européen et le patron de l'Organisation mondiale de la santé, proposent un traité international sur les pandémies. Un engagement collectif pour affronter les futures crises sanitaires. Dans l'actualité aussi, en France, les débats s'annoncent mouvementés dans l'hémicycle. À partir d'aujourd'hui et pendant 2 semaines, le Sénat se penche sur le projet de loi séparatisme. Plus de 600 amendements ont été déposés pour ce texte. Une ancienne Miss France, entendue par la police en janvier dernier, Sonia Roland, a été interrogée par les enquêteurs dans le cadre de l'affaire des biens mal acquis à propos d'un appartement dans le 16e arrondissement de Paris que lui aurait offert l'ancien chef de l'État gabonais Omar Bongo.
7h35 sur Europe 1. Vous allez sans doute reconnaître cette musique. Mais alors, est-ce que vous visualisez la scène ? Cruchot, alias Louis de Funès, en train de parader dans un cabriolet blanc piloté par Michel Galabru à la fin du Gendarme à Saint-Tropez.
Eh bien, ce cabriolet décapotable, un modèle de collection de 1963, il était en vente sur Le Bon Coin et il a trouvé preneur hier. Notre correspondant Jean-Luc Boujon a pu passer le voir dans un garage de Grigny, près de Lyon, où il se refaisait une beauté et son moteur vrombit toujours.
Elle a une super sonorité parce qu'elle a vraiment un beau moteur. Ces voitures, toute la ligne est en inox et c'était le top de l'époque.
Le top de l'époque, ce coupé cabriolet Oldsmobile 1963, une magnifique américaine qui transportait Louis de Funès à la fin du Gendarme de Saint-Tropez et un spécimen très rare selon Stéphane Cerquera, son vendeur qui, dans son garage AMG Sport de Grigny, l'a remise à neuf.
C'est un modèle qui est très dur à trouver aujourd'hui parce qu'il y avait un monobloc en aluminium et toutes celles qui sont sorties ont sorti l'année après avec des monoblocs en fonte. Et c'était deux fois plus cher de faire un bloc en alu que faire un bloc en fonte dans ces voitures qui est déjà immensément rare, capote électrique, moteur V8, 187 chevaux. La voiture est très belle, regardez l'état.
État impeccable, effectivement, même si elle n'est désormais plus blanche mais bleu ciel. Son prix, 28 000 euros, l'annonce est restée une semaine sur Le Bon Coin. Mais le bolide a été acheté hier par un passionné originaire de Saint-Malo.
Quand j'ai vu l'annonce pour la voiture, j'ai craqué. Gendarme de Saint-Tropez, c'est une partie de l'enfance, oui, totalement. Je vais rouler avec sur les routes bretonnes et de France parce que je compte bien retourner à Saint-Tropez avec.
Avant cela, il viendra la chercher la semaine prochaine dans le garage de Grigny, où il pourra aussi admirer toute la collection du propriétaire, notamment la CX Prestige Turbo 2 de Jacques Chirac. Grigny, Jean-Luc Bougeau, Europe 1.
Vous me dites quand il y a la Batmobile. Moi, c'est la Batmobile que je réserve pour les ventes aux enchères, etc. Merci
peut-être
beaucoup.
Qu'elle ne sera pas sur Le Bon Coin. Hein.
C'est pas sûr que ce soit sur Le Bon Coin, effectivement. Sophie Echen, c'était le journal de 7h30 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Leonardo DiCaprio dit de ce livre qu'il nous donne les clés pour sauver notre planète. Et en fait, ce n'est qu'un exemple des différentes stars qui font la promotion de « Inventons notre avenir » chez Albin Michel. L'ex-secrétaire de l'ONU pour le climat, négociatrice de la COP21 à Paris, la costaricienne Cristiana Figueres invite chacun d'entre nous à passer à l'action. C'est l'invité du tête-à-tête Europe Matin dans 3 minutes. Mais tout de suite, la touche âme, Bertrand Chameroy et son regard sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, je vous préviens, je peux partir à tout moment parce que j'attends une livraison là. Et c'est pas la Batmobile.
À tout de suite, il est 7h38.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h40 sur Europe 1, l'heure de la touche âme, le regard décalé de Bertrand Chameroy. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu. Ah, je crois que quelqu'un a laissé son téléphone.
Mathieu, c'est super.
Ah, c'est moi, excusez-moi. Pardon. Désolé, ouais, je m'étais programmé une alarme pour le 1er mars dernier, quand Emmanuel Macron avait demandé aux Français de tenir encore 4 semaines. ça y est, on y est, ça fait 4 semaines.
Les vicieux.
Ah, on se sent plus léger là, d'un coup, ça, on va souffler un peu. Là,
bon, Bertrand, si on veut être précis, la phrase exacte, c'était 4 à 6 semaines.
Ah oui, c'est vrai. Bon, je me reprogramme une alarme pour le 5 avril, alors. Oh, puis non, je la programme même pas. Quoi. Bon, il s'est passé tellement de choses depuis le 1er mars que j'ai du mal à imaginer comment ça pourrait aller mieux d'ici au 5 avril, ni comment ça pourrait aller tout court, d'ailleurs. Bonne journée. Excusez-moi, Mathieu, j'ai un peu la tête ailleurs en ce moment, mais c'est parce que j'attends une prise de parole. Là, ça peut se produire à n'importe quel moment. Donc, je suis sur mes gardes. Vous avez entendu le dernier teasing en date. Emmanuel Macron prendra la parole dans les 15 jours. Dans les 15 jours. On attend du président qu'il tranche et lui, il sort une fourchette. Et quelle fourchette hein ? Je sais pas, ça peut être demain, hein, vendredi, le 6 avril ou le 4, à moins que ce soit le 10, je sais pas. C'est pas un président, c'est un livreur de canapé. Et je passe entre demain, mercredi 20h et le 12 avril. D'accord, faisons comme ça. Vous vous souvenez du spot du gouvernement Tenir Ensemble ?
Fermer plus tôt.
Ouvrir plus grand.
Porter un masque. Vraiment, porte.
En restant chacun mobilisé,
nous serons plus forts ensemble.
Ouais. Bon, bah, vu que ça fait un petit moment qu'il tourne, je me suis permis d'actualiser ce spot « Tenir ensemble ». Porter le masque. Ne pas voir le bout du tunnel. Subir la même journée, chaque jour. Savoir teaser. Très bien teaser. Vivre des semaines décisives, toutes les semaines. En avoir plein le... Aller à l'école parce qu'elles sont encore ouvertes. Commencer à saturer. Être saturé parce qu'on est un service de réa. Se trouver face à un mur. Vouloir revoir des vagues, mais des vraies, celles qui sentent l'iode, pas celles qui sentent très mauvais. Vous êtes au bout du scotch ? Mais il va falloir tenir, ensemble. Non, tenir. Encore. Oh, allez, sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente journée et de bons prochains jours décisifs.
15 jours décisifs encore, c'est ça ?
Je crois, oui.
On en est à la 68e semaine décisive d'affilée. Bertrand Chamerois, à la touche âme tous les matins, 7h40. Merci Bertrand. Et à 10h tout à l'heure avec Philippe Vandel dans Culture Média.
Europe Matin, le 7-9.
Vivre en citoyen plutôt qu'en consommateur. Dépasser les combustibles fossiles. Exiger un numérique propre ou même planter des arbres. 10 actions, 10 commandements pour chacun, chacune d'entre nous. Et une réflexion sur l'urgence climatique. C'est la proposition de la costaricienne Cristiana Figueres, ex-secrétaire des Nations Unies pour le climat, ancienne négociatrice des accords de Paris. Chez Albin Michel, elle publie « Inventons notre avenir ». Cristiana Figueres est mon invitée ce matin.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Cristiana Figueres, bonjour.
Hi Matthew.
Bonjour Mathieu, merci de me recevoir.
Alors l'une des idées principales que vous défendez dans ce livre, c'est que chacun d'entre nous doit se saisir de la question, se sentir concerné, agir à son niveau pour le climat. Est-ce que ça veut dire que les politiques, les États, les organisations internationales sont en fait impuissants ?
Non,
ça veut dire exactement le contraire. Ça veut dire que tout le monde a du pouvoir et tout le monde a de l'influence. Nous avons tous du pouvoir et de l'influence à différents niveaux. Et clairement, ceux qui sont à la tête d'État et de grandes entreprises ont un grand niveau de responsabilité. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont juste à la tête d'une famille, où nous, les individus, n'avons aucune responsabilité. Chacun d'entre nous doit contribuer à la mesure de notre sphère d'influence.
Alors, vous préconisez 10 actions dont nous pouvons nous saisir, 10 commandements que vous développez dans le livre. Votre fil conducteur, c'est l'optimisme. On peut encore se permettre d'être optimiste ?
Je ne pense pas qu'on puisse se permettre de ne pas être optimiste. Je ne pense pas qu'on puisse se permettre de rester sans espoir. Je comprends parfaitement et je fais partie de ceux qui souffrent de voir qu'on détruit notre planète. Mais on ne peut pas rester paralysé et ne rien faire. Nous devons nous lever, nous mettre à hauteur de l'enjeu et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver des solutions.
Et que dites-vous ce matin à ceux qui se lassent de ce combat, à ceux qui pourraient être découragés ? Je veux dire, ces questions, ces enjeux sont écrasants.
C'est écrasant si on regarde tout ça de manière globale, mais pas si on comprend que ça se joue à tous les niveaux, y compris à celui de notre vie personnelle. Chacun d'entre nous a personnellement une empreinte carbone. Donc, en agissant dessus, on peut apporter notre solution au problème du climat. Ce que l'on mange, par exemple, contribue beaucoup au réchauffement si on continue de manger beaucoup de viande rouge, mais peut devenir une solution si on se tourne vers un régime avec plus de plantes. Le gaspillage alimentaire, c'est aussi beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. En Europe, la moitié des aliments gaspillés viennent de nos maisons. Comment est-ce possible ? Il faut arrêter. Tout ça, ce sont des contributions qu'on peut tous faire au quotidien et aucune d'entre elles n'est écrasante.
Alors, vous étiez secrétaire de l'ONU pour le climat, négociatrice de la COP21 à Paris, je le rappelle. 5 ans après, dites-vous, croyez-vous toujours que l'accord de Paris est un succès ?
Yes.
Oui, l'accord de Paris est définitivement un succès. Certains en Amérique pensaient que leur retrait le ferait tomber. Mais non, il a passé le test de la politique et il tiendra cet accord encore plusieurs décennies. L'autre question, c'est comment, effectivement, rapidement et à quelle échelle on arrive à le mettre en œuvre. Aujourd'hui, on ne va pas aussi vite qu'il faudrait. Les scientifiques ont été très clairs. Pour atteindre l'objectif de l'accord, nous devons être à 50% de nos émissions actuelles d'ici 2030. C'est ça l'objectif à court terme que doivent viser tous les États, toutes les entreprises et tous les individus.
Et vous parliez d'échelle. À vos yeux, Christiana Figueres, la pandémie et la crise qui va avec nous prouvent que nous sommes capables d'agir à une échelle planétaire, mondiale.
Oui, c'est un très bon exemple de la façon dont nous sommes tout à fait capables de grands changements de notre comportement si l'on comprend que la menace est imminente. La différence entre le Covid et le changement climatique, c'est que le Covid nous est apparu comme une menace immédiate. Le réchauffement, ça nous paraît être une menace de plus long terme. Et c'est pour ça qu'on ne change pas nos habitudes aussi profondément qu'on le devrait. Mais le fait est, Mathieu, que le changement climatique est une menace bien plus importante pour notre économie et même pour notre santé que le coronavirus.
L'importance de la menace, oui. Et puis il y a l'urgence.
Bien sûr, si vous réalisez qu'on doit être à la moitié de nos émissions actuelles d'ici 9 ans, au niveau individuel, familial, à celui des entreprises, des villes, des pays, de toute la planète, pour émettre moitié moins d'ici 2030, on ne peut pas attendre 2029. Il faut agir maintenant.
Alors justement, une dernière chose. Pour agir, vous recommandez de changer notre rapport à la nature et vous nous dites de planter plus d'arbres.
Oui, nous devons planter plus d'arbres. Nous devons arrêter la déforestation, régénérer les sols, des activités qui contribuent à capturer du carbone, à l'absorber dans l'air pour le stocker dans la terre, là d'où il vient. Le fait qu'on libère autant de carbone dans l'air, c'est ce qui cause le réchauffement. Donc, on doit inverser cette tendance, la tendance qu'on a lancée depuis plus d'un siècle. Et on doit arriver à stocker de plus en plus de carbone définitivement dans les sols. Nous devrions tous planter des arbres, absolument.
Christiana Figueres, ex-secrétaire de l'ONU pour le climat, négociatrice de la COP21 à Paris, sur Europe 1 ce matin. Merci beaucoup.
Thank you, Mathieu.
Inventons notre avenir, c'est chez Albin Michel.
Europe 1, Mathieu Béliard.
7h50 dans quelques toutes petites secondes, l'édito politique de Nicolas Bétou, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h52 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Après le coup de pouce aux donations pour aider les jeunes, Bruno Le Maire veut relancer maintenant un autre gros chantier, la réforme des retraites.
On la croyait enterrée, cette magistrale réforme des retraites, au fond d'un tiroir depuis un an. Pas le moment de diviser les Français, nous sommes en guerre. Unité, unité. Eh bien non, pas pour tout le monde. Le ministre des Finances s'occupe de finances et comme tel, il a l'œil sur les déséquilibres de notre économie, en l'occurrence sur le déficit des retraites. Nous ne pouvons pas continuer à avoir un système de retraite par répartition, dit-il, si nous ne pouvons pas le financer correctement.
Mais alors, son idée, c'est quoi ? C'est de reprendre la réforme là où elle avait été laissée ?
Alors non, ce serait de l'inconscience. Les syndicats ne mettraient pas longtemps à se réveiller. Le patronat, d'ailleurs, n'est pas demandeur. Et de toute manière, l'architecture de la réforme était loin d'être aboutie. Vous vous souvenez, Mathieu, qu'il y avait deux types de réformes possibles. La réforme systémique ou la paramétrique, un jargon hermétique, pour dire en fait des choses simples. Faire une réforme systémique, c'est remettre à plat et rebâtir tout le système.
Et la réforme paramétrique, c'est simplement modifier les paramètres, les curseurs.
Ben voilà. Par exemple, l'âge, les cotisations, les pensions, tout ce qui est variable. Et c'est ce type de réforme beaucoup plus light à mettre en place que Bruno Le Maire veut relancer.
Alors c'est plus light, mais politiquement c'est sûrement assez compliqué.
Absolument, mais Bruno Le Maire a plusieurs objectifs. D'abord, envoyer un message de droite, comme pour les donations, lui qui a beaucoup claironné que le capitalisme était fini et qui s'est illustré dans des actions très économie dirigée, plutôt marquée à gauche. Donc, je pense au blocage du rachat de Carrefour, par exemple. Une sorte de rééquilibrage de son positionnement politique. Et puis, il y a le calendrier. Sans être exagérément optimiste, on peut imaginer qu'à l'automne, la crise sanitaire sera, pour l'essentiel, derrière nous. À ce moment-là, on fera forcément les comptes. Et on sera pile au moment du démarrage de la vraie campagne pour 2022. Pile au moment où les déficits et la dette deviendront des sujets incontournables. Xavier Bertrand a déjà annoncé un relèvement de l'âge de la retraite. Marine Le Pen attend. On ne sait pas très bien où elle en est sur ce thème. Le calcul de Bruno Le Maire, c'est qu'Emmanuel Macron, candidat, ne pourra pas échapper au sujet. Alors, autant cranter tout de suite le débat.
Merci, votre édito tous les matins d'Europe Matin avant 8h. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. 7h55, Nicolas Canteloup, tous les matins, conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Elisabeth Borne, la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, qui a repris le travail après un court séjour à l'hôpital. Et c'est Jean Castex qui voulait lui dire un mot.
Oui. Bonjour Monsieur Béliard, bonjour Monsieur Bétou.
Monsieur le Premier ministre.
Et à la bonne heure, Elisabeth Borne est de retour. Babette est ressortie de l'hôpital au moment où la pauvre Roselyne, elle, y est entrée. Vous voyez, c'est le chassé croisé, hein. C'est les départs en vacances, comme avec les juilletistes et les haussiens. Ah mais, allez gérer un gouvernement avec des ministres qui font des allers-retours sans arrêt entre l'hosto et leur ministère. Ceci dit, entre vous et moi, ils sont peut-être moins dangereux à l'hosto.
Le président souhaite une vaccination 7 jours sur 7.
Voilà, c'est ça, une vaccination 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, samedi et dimanche, une vaccination qui aime les heures sup. Je dirais que, monsieur Bétou, je qualifierais ça d'une vaccination de droite.
Ah, mais voilà, exactement.
Oh, mais attends, pardonnez-moi, monsieur. Oui, monsieur le président, bonjour. Oui, bonjour, Jean.
Oui, bonjour, monsieur Bétou, monsieur Béliard. Oui, non, j'entends parler sur votre antenne de là. Fermeture des écoles dès le premier élève malade. Mais j'y pense, j'aurais dû faire cela avec mon gouvernement. Dès le premier ministre Covidé, tous les autres ministres restent chez eux. Je suis sûr que je ferai tout seul, j'aurai de meilleurs résultats finalement, non ?
7h56, c'est signé Nicolas Canteloup qui conseille tous les matins l'invité politique Elisabeth Borne. Aujourd'hui à 8h15 au micro de Sonia Mabrouk. Et à 8h45, on retrouve bien sûr Nicolas Canteloup pour la revue de presque. 7h56. 7h58 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous. Vous êtes un peu la bonne nouvelle du jour, Laurent.
Hein, ah, c'est le soleil.
Donc on l'apprend avec gourmandise. Il fait beau aujourd'hui.
Ben oui, il fera beau partout, hein, excepté sur le bassin méditerranéen. Oh, c'est pas excepté. Avec quelques nuances. Sur le bassin méditerranéen, nous avons des brumes marines, bon, ça n'est rien, et du vent marin et du vent d'outre-mer, mais enfin, ils ne sont pas d'une puissance extraordinaire. Alors, les températures ce matin sont froides pour certains d'entre nous, un peu comme hier. Hein, parfois, il y a des gelées, je l'ai dit, hein, sur les Ardennes, l'Allier, le Cher, la Haute-Saône. Et puis, des températures maximales qui sont quand même bien portantes. Comme l'on dit, se porte bien. 20 degrés à Nice, 21 à Brest, 22 à Toulouse, 23 à Caen-et-Lille, 24 à Bourges, à Dijon, à Rennes, à Paris, à Belfort. Tiens, Belfort, allez voir le lion de Belfort. C'est une sculpture magnifique de 10 mètres de haut, de 20 mètres de large, créée par Bartholdi, sculpteur alsacien à qui l'on doit la statue de New York. Eh bien, la statue de la liberté. Eh bien, le lion est magnifique, il faut aller le voir. Fermons la parenthèse. 24 degrés à Belfort, 25 degrés à Nancy, Colmar et Lyon, 26 à Clermont-Ferrand, 27 à Bordeaux et 28 dans les Landes.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1, on écoute le monde changer.